J'arrive pas à m'accepter moi-même, je ne peux pas démarrer.
Dans ce cas, ça fait de donner la malédiction au nom de Dieu.
Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire une malédiction. On va le voir au tableau. Et ça, ce sera la grande difficulté qu'on rencontrera dès qu'on abordera chacun des sujets de la vie. Il faut commencer au commencement. Il faut arriver à comprendre que c'est moi qui suis en jeu dans cette histoire depuis l'origine. Oui. Si j'arrive à comprendre que c'est moi qui suis en jeu depuis l'origine, la notion d'injustice va s'évanouir. Et c'est quoi, je vous ai dit, nous avons...
Dans ce cas-là, ce qui va s'évanouir, c'est que c'est Dieu qui nous a...
Non, pas du tout. Et nous avons un seul niveau où nous sommes mis à l'épreuve. Et tout ce qu'il y a avant ne nous concerne plus. C'est la relation directe avec la génération précédente. C'est-à-dire pour chacun et ses parents. C'est là que ça va se rétrécir. Et après, chacun... Je vais raconter une petite anecdote de mon histoire personnelle pour bien éclairer ce qu'a voulu dire lui dans cette impression d'injustice quand on a l'impression d'avoir à prendre sur soi quelque chose qui ne nous concerne pas. Faites bien une différence entre la notion de responsabilité et celle de culpabilité. On peut être responsable de choses dont on n'est pas coupable. Il ne faut pas se prendre comme coupable de choses dont on n'est que responsable. Ça, c'est le début de beaucoup de désordres mentaux, psychiques. Okay? Quand on croit qu'on est coupable de quelque chose dont finalement on n'est que responsable. Et on est responsable dans les limites de son pouvoir. Et si on ne voit pas la différence entre ces deux notions, encore une fois, je répète les mêmes mots, on risque d'être intoxiqué par une sorte de culpabilité inutile de quelque chose dont on est innocent, bien qu'on se sente responsable, mais c'est autre chose. Responsable dans un autre sens. Responsable dans le fait que tout ce que je peux faire, je dois le faire. Ça, c'est être responsable. Mais coupable, j'en suis pas coupable. Je vous donne un exemple. Eh bien, tout simplement le problème de la faim dans le monde. Après tout, un homme normal qui aurait une conscience morale élémentaire ne peut pas dormir la nuit en sachant que quelque part sur la planète, il y a un enfant qui a faim. C'est clair. Bon. Mais, et donc, il faut que je me sente responsable. Mais pas coupable. Je ne suis pas coupable de ça. Mais responsable, oui. Alors, je peux quand même dormir à condition que le lendemain matin, je décide de faire quelque chose. C'est autre chose. Vous avez compris le problème. Faites bien attention à ça, parce que c'est une névrose qui atteint beaucoup des Juifs, qui se considèrent comme coupables de choses dont ils ne sont même pas responsables. Mais enfin, admettons... Est-ce que c'est clair? Faites bien attention, ça fait partie de l'histoire juive, ça, et il faut vraiment l'évacuer. Il y a des ratés de la conscience morale par exagération. Il y a des maladies de la conscience morale par hypertrophie. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est pas du tout.
Attends, j'arrive à ton problème. Voilà quelle est la question. Et dans quelle mesure je vais accepter ou pas un monde, et on avait décrit ça dans les premiers cours, où d'étape en étape, il y a des déchets des étapes précédentes, mais j'en suis pas moi responsable.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Ça, on l'a déjà dit la première fois, ça je comprends bien, que je suis dit dans responsable de ce qui est du passé. Parce que je veux dire que si je suis responsable, et si je fais une faute, c'est moi qui grandis la vie. Mais là, on a l'impression que c'est Dieu qui me grandit la vie.
Ah non, non.
Lorsqu'on dit que Dieu nous grandit, on a l'impression que c'est Dieu qui dit, ok, j'ai grandi encore la vie.
Relis la page. Et puis la prochaine fois, chacun la
Comme vous l'avez dit par ailleurs, c'est pourquoi lorsque l'homme sera maudit par sa faute, la terre sera elle aussi punie pour cette faute-là et maudite.
Oui. Bon, ça veut dire que normalement, dès la faute de la terre, entre guillemets, si on a un peu éclairé par la notion de liberté de la terre, eh bien le monde aurait dû être un monde de ronces et de chardons. Okay. Mais voilà, non, on a tout suspendu. Qu'est-ce que va faire l'homme? Puisque l'homme a fauté, alors ça se réalise. À
posteriori.
Bien sûr, c'est moi cette terre qui est devenue un homme.
Donc vous avez pensé Dieu nous a maudit. J'ai entendu ça.
Non, c'est comme ça que je l'ai dit. Je vais vous expliquer d'abord la notion de malédiction parce que c'est pas clair en français. On va l'opposer à la notion de bénédiction. Comment je vous expliquer la notion de bracha? Est-ce que c'est un être béni? Une chose bénie? Deux.
Le Shabbat, la bracha de la vie, on a dit que la chose qui est déportée indique l'esprit.
Rappelez-vous dans votre mémoire la notion de base. Vous rappelez l'idée de fécondité ? C'est l'idée de fécondité. Dans le sens de fécondité. Ça veut dire un être béni, c'est un être qui est plein, plus plein. Il est plus que lui-même. La bracha, c'est un surplus d'être qu'il y a dans l'être béni. Et ce surplus d'être s'exprime précisément dans la fécondité. Retenez bien. Mais la clala, qu'on traduit par malédiction, c'est juste l'opposé. Vous connaissez au moins un mot simple, qui est le mot calme. Ça veut dire calme, léger. Alors les calèges, ça va encore renforcer la légèreté, vider quelqu'un de son être. Vous voyez, c'est juste l'opposé, la notion opposée. Okay? C'est clair? Imaginez un être dense, plein, fécond. Tout ça, on peut procéder en français que par des approximations. Baruch, ça veut dire plein. Okay? Un être calme, fantomatique, vide de lui-même. C'est ça, des maladies. Okay? Donc ça fait mieux ce que la tranche. Okay. Oui, ça fait partie de cette direction de pensée. Privé de cette capacité de bracha. Mais c'est plus que c'est un être qui n'est que l'ombre de lui-même, si vous voulez. Bon, alors retenez déjà ces deux mots, barer, densifier l'être, caler, l'alléger, le vider. Bon, alors on a encore un exemple, et puis c'est très bien qu'on rencontre ces difficultés parce que ça vous montre qu'il y a derrière un registre de pensée qu'il faut que nous découvrions. C'est clair? Vous voyez que c'est, par exemple, ce Rashi, si on le lit en français comme ça de façon abrupte, on se dit, mais qu'est-ce que ce livre nous raconte comme, vous rappelez l'origine de la philosophie? C'est ça la sagesse? Vous rappelez? Qu'est-ce qu'il nous raconte comme chose incompréhensible, pour dire les mots simples? Et alors on se demande, enfin, ce peuple est fou, complètement fou, pendant 2000 ans, dans toutes les écoles juives, c'est avant lui. C'est tout simplement qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est pas bon. Non. Vous vous rappelez le problème? Je vous donnais encore un exemple. Est-ce que vous allez retrouver des choses analogues dans votre propre expérience? Je me rappelle quand j'étais au lycée. Je me souviens, ça m'a commencé un peu en classe de 6e. J'avais une dizaine d'années. Et puis alors au lycée, je commence à découvrir la culture européenne. Et les exposer à travers le logos, en histoire, en littérature. Bon, imaginez le contraste. D'autre part, j'allais au Talmud Torah. Au Talmud Torah, on étudiait en judéo-arabe. J'avais mon grand-père qui était le Haram, qui nous enseignait en judéo-arabe. Alors un jour, j'ai eu l'idée suivante. Je schématise un peu parce que dans ma mémoire, ça s'est schématisé. Si au fond, il faut que je choisisse. Si le prof du lycée a raison, alors ça veut dire que mon grand-père c'est un primitif. Ou bien peut-être non, mon grand-père n'est pas un primitif, et donc il faut que je comprenne en quoi c'est l'autre 14. Et alors j'ai mis des années pour me sortir de ce problème, mais vous comprenez quel est le problème. Alors essayez d'avoir en tête ce contraste. Il y a d'un côté la tradition juive, 2000 ans d'histoire après les Hébreux. Okay? Et Rashi, et Rashi c'est un parmi les grands. Okay? Et d'un autre côté, cette lecture où on arrive à lire cette traduction-là, il aurait mieux valu qu'elle n'ait jamais paru, hein, du début jusqu'à la fin, ouais, c'est illisible. Hein, de quoi il s'agit? Alors on se dit, bon, ces juifs s'en foutent, de quoi ils s'occupent, hein. Mais chaque fois que cette question se posera à vous, rappelez-vous Abraham Avinu. Vous croyez vraiment qu'il est un primitif, vous allez découvrir ce que papa. Alors c'est ce réajustement qu'il faut faire. Mais un des plus grands handicaps, c'est ce genre de traduction. Oui, nous avons là un exemple très, très clair. Ça ne dit quelque chose qu'à celui qui est convaincu à l'avance, mystiquement, que peut-être ça veut dire quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On a lu des bêtises, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je pense que vous êtes maintenant suffisamment mis en garde. Bon, alors voilà, donc c'était un exemple en travaux pratiques de qu'est-ce qu'il y avait derrière ce Vaïchen. Faites bien attention, c'est pas chaque fois que vous avez le Vaïchen dans les autres textes de la Torah que ça veut dire exactement cette nuance-là. Il y en a d'autres. Okay? Dans d'autres contextes, il y a d'autres. Bon, au moins vous savez maintenant que dans toute votre vie juive, Alma Vestrine un peu plus, vous n'aurez pas à vous ennuyer. Alors on reprend le cours. Toi qui avais une question.
Oui, il y a un truc. L'autre jour, on a saisi, pas avec la, en comparant avec la philo, qu'il y avait ce décalage, et que nous, il fallait l'accepter, etc. Que... On refusait cette différence et on l'acceptait comme telle, comme ça. Bon, ça c'était pour l'homme, pour ça on comprenait encore. Mais là on arrive à la nature, c'est-à-dire qu'on s'enfonce encore plus. Parce que quand la nature, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, que la nature elle fait cette différence. Et c'est quelque chose que je ne reçois pas du tout.
Mais c'est la nature qui pose le problème de cette différence.
Ouais,
c'est la différence, finalement. Entre le monde de la nature comme il est, après 6000 ans d'histoire, 5700, bon, on est tout près de la fin, okay. Voilà ce qu'elle a fait d'elle pendant 6 jours qui sont 6000 ans, okay. Et le monde du projet du créateur, le Marchevet Abria, la création comme elle a été pensée par, et notre âme est capable de deviner qu'est-ce qu'il y a dans ce monde de vérité. Et alors nous sentons ce décalage entre la vérité du monde et la réalité du monde.
Oui. Et ce décalage, il a été fait pour que nous on cherche ?
Non, ce décalage, c'est ce que l'histoire a fait d'elle-même. On revient à l'analyse de tout à l'heure, n'oubliez pas les moments de l'analyse. Et pourquoi il peut y avoir de décalage ? Parce qu'il faut qu'il y ait liberté. Pourquoi il faut qu'il y ait liberté ? Parce qu'il doit y avoir mérite. Okay. Une fois qu'on a mérité, les brouillons, c'est fini à la poubelle. Oui. Vous préparez. Attendez, je vais exploiter cet exemple. Vous préparez un examen pour rendre une copie. Okay. C'est sur la copie qu'on va être jugé. La copie de l'examen. Mais avant d'avoir été capable de faire la copie de l'examen, il a fallu des quantités de brouillons. Les brouillons à la poubelle, une fois que l'examen est passé. C'est ce qui arrivera du monde. Tout ça, c'est des brouillons. Jusqu'à ce qu'on arrive.
C'est un peu que l'approximation nous devient de plus en plus médiocre, finalement, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de
cette dérive initiale. Nous portons sur nous le poids du passé, beaucoup plus que les premières générations.
C'est pour en aider.
Oui, c'est pour ça que les jeunes de la génération contemporaine sont très assommé par cette espèce de découverte de l'épaisseur du passé de l'histoire. Je veux dire, il y a ici un paradoxe. Nous croyons que nous sommes plus jeunes que les anciens, c'est eux qui étaient plus jeunes que nous. Nous sommes plus vieux qu'eux. Est-ce que c'est clair ? Bon, ceci dit, chacun à l'échelle individuelle est à un moment différent de ce problème. Il y a des âmes plus jeunes, il y a des âmes anciennes. Chacun entre dans ce problème avec un passé personnel différent. Sachez-le qu'il ne peut pas y avoir d'égalité à ce niveau-là. Alors vous avez des gens qui ouvrent les yeux de façon naïve sur un monde tout neuf, hein? D'autres qui ouvrent les yeux sur un monde déjà très vieil. C'est le même monde, mais c'est pas la même histoire. Bon, je referme la parenthèse.
Ça veut dire que le projet, Yudalef, le Passouk Yudalef, le projet qui a été, c'est encore un projet qui est valable aujourd'hui et qui reste. C'est ça que ça veut dire.
Et dès que l'homme mérite, il se réalise. Et un jour, on verra des arbres. En tout cas, c'est écrit dans la Gemara. On aura des arbres, les gâteaux pousseront sous les arbres. J'ai jamais compris ce que c'était, jusqu'à ce que j'ai mangé un certain fruit qui s'appelle l'avocat. Un repas entier sur un arbre. C'est des petits exemples, comme ça encore. Bien, tout préparé.
C'est le projet pour la terre et son avenir et jusqu'à...
Oui, on pourrait dire en termes philosophiques ou culturels, un état de l'histoire où le problème économique sera résolu. De tout ce que je veux, vous voyez à quel point l'analyse marxiste s'est accroché à un aspect de cette question. Mais seulement, il manque la morale. C'est ça l'histoire. Je veux dire, retenez cette idée-là. Et surtout ceux d'entre vous qui feront des sciences et des techniques, il y a une capacité dans le génie humain des sciences et des techniques qui pourrait transformer la planète en paradis terrestre en une génération s'il y avait moralité. On aurait des villes avec des soleils la nuit, on lui donne pas d'air. Et le chauffage central en hiver, dans les rues, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'aurait même pas besoin d'avoir des imperméables. Tout ça, vous lisez la science-fiction. Bon, c'est le midrash des temps modernes. C'est mal écrit, mais c'est le midrash des temps modernes. Vous avez fait clair ? Bon. Qu'est-ce que Dieu dit ?
La première question que vous avez posée,
mais reformule.
Toi, vous dites la nature doit se mériter d'elle.
Donc, j'ai pas dit ça comme dit. J'ai dit la créature doit se mériter. La notion de nature n'est pas à sa place ici, mais continue.
Enfin, moi, ce que j'en ai compris, ce que j'en ai déduit, c'est que. Donc, elle doit se former. Pour elle est libre, elle se forme, elle se mérite. C'est pas à peu près ce que
c'est.
Oui. Tandis que Rachid nous donne un autre mot pour ce mérite. Il nous dit elle désobéit.
Oui,
est-ce que le mérite des désobéissances veut dire
très bien, très bien. J'ai compris ta question, c'est une question importante. Je vais faire un réflexe là-dessus ce matin, c'est très important. Pour que j'enlève ma lettre. Regarde. Tous ces problèmes-là, et je suis très, très content que ça se pose si vite, de façon aussi. C'est les problèmes de différence entre le registre des catégories en français et des catégories en hébreu. C'est la manière dont les mots du dictionnaire traduisent un mot à l'autre. Et là, effectivement, il y a un exemple où, finalement, on change radicalement de régime. C'est, ta question ressemble beaucoup à celle d'Élie. Vous avez remarqué? Non. Regardez, je vais prendre l'analyse du mot qui en hébreu signifie une faute. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Bon, alors je prends le mot Het. Le mot de Ravon, c'est une faute un peu plus grave, mais c'est dans le même kimoun de pensée, dans le même ordre de pensée. Le mot Het, c'est écrit comme ça? Voilà, le parenthèse. Moi, j'ai un problème avec le mot faute. Je ne sais jamais l'écrire, c'est la psychanalyse. Ça, je connais pas. Bon. La racine, en hébreu, d'où vient ce mot de hel, qui signifie la faute, ça veut dire très littéralement rater une cible. Le harti. Ça veut dire dévier. Okay? Alors, je vais vous faire une petite image au tableau pour qu'on essaye de comprendre l'idée. C'est-à-dire, il y a un objectif à atteindre. Et voilà que j'ai dévié. C'est ça qui s'appelle hel. Les harti, ça veut dire dévier. C'est le verbe. S'écarter, mais dans le sens qu'il y a un objectif, il y a un projet à réaliser. Et voilà, je sais pas. Si je m'entête dans mon erreur, ça devient péché, dans le faute, dans le sens de péché. Alors là, j'ai un problème avec le tribunal d'en haut. Bien. Mais à l'origine, il y a une espèce de raté de la vie, de raté de l'être. Bien. Un moteur qui fait des ratés. Bien. Il y a un métier d'homme, alors il y a des fautes de métier. Enlevez le pathos du mot faute, d'abord. Le pathos du mot faute. Vous comprenez que quand je dis pathos, ça veut dire l'aspect pathétique, l'aspect l'accent grave. Pourquoi vous riez? Ah, d'accord, les pauvres, ils ont un accent. Hein. Oui, j'ai oublié moi le patawai. C'est vrai, on appelait les pathos, mais pourquoi d'ailleurs? Bon, il parle pathétiquement.
Il y a une histoire avec des canards en Algérie, c'est les Français, ils marchent comme les canards, alors bateau. Je n'entends pas, pas de bateau.
Non, non, c'est un mot espagnol, bateau. Non, c'est le mot grec. Avec TH. Okay. Le pathos, c'est-à-dire le pathétique. Oui. Dès qu'on emploie des mots comme ça, il y a des mots qui sont chargés d'affectivité. Faute, malédiction, etc. Enlevez tout ça. D'abord, il faut comprendre étymologiquement qu'est-ce que ça veut dire.
Ça veut pas dire malade, comme la pathologie.
Par exemple, comme dans pathologie. Okay. Et la... vous voyez, cette idée qu'il y a un projet à réussir, on a tiré la flèche, mais la flèche a dévié. Le harti et tamatara, on dira en hébreu. Rater la cible. Okay. Voilà. Vous voyez, pourquoi nous sommes dans ce risque-là de hey, de rater la cible, c'est parce que nous sommes libres. Okay. Mais si c'est cette cible-là que je vise, quels que soient les ratés, le jour où je mérite, c'est celle-là que j'aurai. Et tout ça, c'est les brouillons. Vous avez compris? Il y avait, je ne sais plus quel poète disait une très jolie chose. Il faut toujours viser haut, même si on rate la cible. Mais il faut viser haut. Je ne sais plus quel poète avait dit ça, et il a dit ça plus joliment d'ailleurs. Voilà, c'est un peu ce problème. Alors si, ayant dévié, par orgueil, je m'entête dans mon déviement, ma déviation, alors là, ça devient aveugle. Alors là, ça s'appelle tordu, en fait, tordre quelque chose intentionnellement. Vous voyez la différence? Bon. C'est-à-dire, tant que la terre avait raté son objectif, elle n'a pas pu. Okay? Alors, c'est pas grave. On va attendre. Qu'est-ce que va faire l'homme? L'homme s'est entêté. Il a refait comme homme la faute de la terre. Alors tout va se dévoiler. Les ronces à la place des raisins. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire, on va essayer de préférer un régime immanentéiste, où on voit les choses venir d'en bas, plutôt qu'un registre transcendantal, où on voit les choses venir d'en haut, auquel vous n'êtes pas habitué. En réalité, les deux sont vrais. Okay? Mais je comprends ça, vous êtes plus habitué à ce langage immanentéiste. Bon, en hébreu, il y a les deux à la fois, dans les mêmes mots. Quoi.
Attendez, mais moi, je suis et quand l'être dynamique, si j'ai mal pris mon élan, je vais m'éloigner de plus en plus du but qui m'était initial. Et pas comment, avec mon élan, je vais franchir, je vais être excellent.
C'est pourquoi tu as la possibilité, qui s'appelle le repentir, de revenir à ta base de départ pour relancer ta fusée mieux. Ça s'appelle chou. C'est chou, hein. Tu te reprends à temps et tu recommences. C'est clair. Attendez, quelle heure il est, vous savoir. Bon, comme d'habitude, il nous reste un quart d'heure. Alors, je ne vais pas changer de sujet, nous avons en train Abel, Caïn et Abel, pour demain. Alors, je vais un peu vous donner un petit dessert. Le gâteau. Et vous réclairez ça dans un tout autre langage. On va faire un petit peu de cabane. Dites à personne, hein, moi je te parle de cabane. Voilà, je vais essayer de vous donner une autre idée qui vient de la Kabbalah, mais enfin je vais vous la faire simple, pour comprendre cette idée. Laquelle, celle-là, d'après que j'ai fait, le décalage entre le monde de vérité et vous savez, dans le monde de la réalité. Dans votre langage, vous pouvez trouver d'autres mots en français ou dans une autre langue. C'est une idée qui est importante. Okay? Un certain monde idéal, que j'appelle le projet du Créateur, et puis ce qui s'est effectué dans la médecine, dans la réalité. Okay. Voilà, dans le langage de la Torah, l'état du monde à l'origine, c'est ce que vous lisez en français, les eaux primordiales, les eaux originelles, l'aïe, okay, l'eau. Okay. En hébreu, c'est maïm. Vous suivez, c'est clair. Bon. Ce mot de maïm, je ne sais pas si on en a parlé une fois, en hébreu est toujours utilisé au duel, au pluriel. Okay. Vous avez d'autres langues sémitiques où ce même mot et tout singulier, par exemple en arabe. On a parlé de ça. Comment on dit l'eau en arabe? Ma. Bon. Alors disons que, en réalité, c'est un duel. Duel, ça veut dire ce qui va par pair, double. Okay? Disons que c'est un pluriel, en général. L'idée qu'il y a là, c'est les éléments du monde dans l'état originel, les ma. Ma, c'est une chose. Ma. Pour ceux qui savent le latin, et le bout du latin, ma, c'est puis. Alors que mi, un quelqu'un, c'est cuit. Donc c'est l'inverse.
Oui. Ma,
c'est quoi? Ma, c'est quoi? Et. D'accord, enfin, oui, c'est dans le sens que ça en latin. Alors, les éléments du monde à l'origine, c'est dans le premier verset, le roi Chedokim et la Hefet al-Bene à Maï. L'état du monde à l'origine, c'est les choses du monde, les mains. Yes? Bon, il y a ici l'idée que l'état originel, c'est l'eau, d'abord, d'où vient de l'eau. Une chose qui est connue, peut-être, déjà. Non? Bon.
L'hydrogène,
oxygène. L'eau. Et alors, voilà ce qu'on nous apprend. Ces maïmes-là, de l'être du monde, sont données à l'histoire du monde. Et elles deviennent ce qu'elles deviennent. Alors, on apprend dans la Kabbalah d'autre part que entrer dans la réalité, c'est toujours sous l'indice du chiffre 6. Vous apprendrez plus tard pourquoi. Vous voyez, je vous ai dit ça un peu en passant tout à l'heure, c'est ça qui m'a donné l'idée de vous donner ce petit dessert là. Les 6 jours, ils deviennent 6 000 ans. Les 6 directions de l'espace. L'espace et le temps, c'est sous l'indice du chiffre 6. Vous verrez ça. Il y a des lettres en hébreu qui est à elle seule, la lettre a un sens. Le Vav. C'est la lettre de la relation à travers le temps ou à travers l'espace. Et. Okay. Et. Ça relie et dans le temps et dans l'espace. C'est le bon, disons que la catégorie qui désigne sous forme symbolique, si vous voulez, ou sous forme numérique, la réalité, l'espace et le temps, okay. C'est-à-dire que c'est la réalité de la perception du monde est à travers l'espace et le temps. C'est vrai. 6. Eh bien, c'est ça, c'est les 6 dimensions de l'espace ou les 6 dimensions du temps, 6 jours qui sont 6 000 ans. Bon. Alors, ces maïmes sont donnés à la réalité. On va voir ce que tu vas devenir de toi. Deviens ce que tu vas devenir. C'est clair? Bon. Alors, le yu, elle va s'allonger et ça va faire un vav. Et alors là, nous apparaît un mot qui est le mot moum. Qu'est-ce que ça veut dire moum en hébreu? Ne dites pas que vous ne savez pas. Marbin et Mou.
Oui, mais les faux.
Un des faux. Mou. Ça y est. Alors oui, quand le monde d'en haut, le monde de la vérité, le monde du projet descend dans la vérité, il est plein de défauts. Oui, en bas, il y a des défauts. Vous avez compris, c'est une idée parallèle. Okay. Bon. Alors vous apprendrez que qu'est-ce qui est réussi dans l'histoire du monde ? Ce qui n'a pas de monde, ce qui n'a pas de défaut. On apprendra ça à propos des durées des sacrifices. Ce qu'on va appeler Kadosh, Hachem et Nouveau Moum, là où il n'y a pas de monde, là où il n'y a pas de défaut. Non, je prends l'idée à l'inverse. Okay. Mais à travers 6000 ans d'histoire, ces maïs nous sont donnés dans le jeu de l'histoire, à travers l'espace et le temps. Alors c'est plein de défauts. En bas c'est pas, en haut c'est oui. Okay. Et puis en fin de compte, il arrivera un temps où on va dépasser les défauts. Bon. Alors maintenant on va faire un petit peu de Kabbalah, mais alors tout, un tout petit peu. Quelle est la valeur numérique de l'amour?
14.
Bon. Comment on dit la nature en hébreu? Terre. Eh bien, c'est la même valeur numérique. Oui, la nature c'est l'endroit des défauts. De cette espèce d'approximation qui entre la vérité et la vérité. Vous voyez comment ça se récapitule? Tant qu'on est dans le bas, on sait qu'on est dans la
vérité. Notre peuple de Judée avait le droit de monter au jeu et de revenir au jeu. C'est pas très sûr. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce maïm spirituel, le deuxième jour, la séparation du maïm entre le monde ma et le monde mi?
Non, c'est entre les ma d'en haut et les ma d'en haut. Mi, ça vient plus tard.
Mi, ça vient plus tard.
Bon, alors oubliez tout ça. Hein. Simplement, c'est une indication que nous avons un langage où ça s'exprime de façon simple. Ma, qu'est-ce que je dis?
C'est facile pour le traduction.
Il ne faut pas être impressionné.
Non, pas
Hamoun. Il a dit Hamoun, ça veut dire impressionné. Ouais, c'est l'hébreu. Ça, c'est le langage de l'hébreu. Nous avons un langage total qui récapitule toutes ces choses-là.
Il fallait que le monde soit réalisé, que l'homme se réalise. Donc, c'était pour une nécessité.
Oui,
arriver à la vérité.
Oui, dans la phrase que tu as dit, dans la question que tu as posée, le mot de réaliser a un sens très précis. Ça veut dire qu'il faut que l'homme se réalise à travers cette réalisation et acquiert le mérite d'être en vérité.
Ça ne pouvait pas être autrement. Non.
C'est-à-dire, le passage par la réalité est la mise à l'épreuve. Et enlever le pathos du mot épreuve, la vallée de larmes et de douleurs, c'est pas ça. Un test. Okay. Et à travers ce passage dans la réalité, je fais la preuve de quoi je suis vraiment. Et après cette épreuve, alors j'ai mérité d'être par moi. Ça se passe à travers le vase. Ça veut dire quoi? L'espace et le temps, la réalité. Mais les choses sont simples finalement. C'est clair?
C'est raté, moi,
je dois te je voulais attendre que vous calculiez.
J'ai essayé de regarder.
Ces calculs ont été faits pendant 2000 ans. Ateva, la nature, c'est ça le monde de nous. J'ai pas dit plus, hein. Donc,
j'essaie de voir à quel endroit apparaît la première fois la lettre Vav, et dans des réchites, elle apparaît la sixième lettre, et on voit bien sa fonction qui est dans le lien entre Shamaïm et A. Ce qui se trouve Hashamaïm V A.
Être Hashamaïm.
On voit bien le V
être.
Bon. On voit bien le médiateur entre.
D'accord. Bon, c'est pas ce que vous devez apprendre, c'est de même à rien. C'est assez joli. Je vous ai donné un petit peu. C'est la règle chrétienne. 2 et 2, ça fait 4. C'est un mystère. Et pourquoi ça fait pas 5? Bon, eh bien, écoutez, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ah ben, il nous reste quand même 10 minutes. Oui.
Donc, pour que ce monde soit réalisé, c'est aussi, entre guillemets, dans le projet du Créateur que la Terre s'en sorte.
Et la possibilité d'être. C'est pas fatal.
Oui, mais si c'est pas fatal, comment pouvait prévoir que l'homme pourrait trouver la vie? Si elle n'avait pas fauté, si elle n'avait pas eu ses problèmes, l'homme aurait eu du mal à trouver la vie.
Non. Je crois que j'ai compris ta question. On revient à quelque chose qu'on a dit depuis le début des cours. Faites attention. On nous raconte que les choses se sont passées ainsi. Bon, ça veut dire que c'est ainsi que ça s'est passé. Ça veut pas dire que c'était fatal, que c'est comme ça que ça doit se passer. À chaque étape, il y a une bifurcation où je peux aller là ou là. Alors on nous raconte, voilà comment ça a marché. Ça aurait pu marcher autrement. C'est-à-dire, enlève l'idée, en tout cas a priori, l'idée d'une fatalité. D'où vient cette impression? C'est parce que je lis ce récit, et alors, à force de le lire, j'ai l'impression que ça ne pouvait pas se passer autrement. Mais à chaque étape, la liberté est entière, je peux agir comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Seulement, avec le temps, de plus en plus, la marge de liberté se restreint. C'est le même problème que celui de l'habitude. Ça veut dire, au fond, je crois qu'on a parlé un peu de ça au début d'année, au fur et à mesure que le temps passe, et quelles que soient les apparences, nous sommes de moins en moins libres. Mais c'est nous qui sommes de moins en moins libres de notre propre histoire. Je donne une fois l'exemple de la mode. L'idée à quel point la société humaine est conditionnée par des habitudes et elle croit que c'est librement qu'elle agit comme elle agit. Quand je vais choisir une cravate, on l'a déjà choisi pour moi. Vous voyez à peu près le problème que je... Bon, mais encore une fois, ça vous aurez surtout dans les récits d'histoire qui commencent à cligner avec cette impression. Alors donc c'était fatal que ça se passe comme ça? Non, c'est pas parce qu'il y a une cohérence à la manière dont ça s'est passé que ça ne pouvait se passer que comme ça. Par exemple, Caïn a tué Abel. Bon, il aurait pu ne pas le tuer. Il aurait pu avoir la paix. L'histoire aurait été... Okay. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bon, on est au bout de 6000 ans de cette histoire, d'après le conte hébraïque. Et sans arrêt, Caïn tue Abel. Alors, on ne s'en sort pas, c'est donc fatal. Non, c'est ce que l'humanité a fait d'elle-même. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
Vous avez dit tout à l'heure que la Terre a dévié, et la faute a été suspendue jusqu'à l'arrivée de l'homme en attendant qu'il... La sanction a été suspendue en attendant qu'il change quelque chose. Et lui aussi, Mais alors, pourquoi, si on attendait l'homme pour qu'il y ait sanction, pourquoi on lui a donné cette liberté, puisqu'elle était dépendante de l'homme de toute façon? Ça, je ne comprends pas, j'arrive pas à saisir.
Voilà, l'idée qui est là, c'est un problème important, mais il faudra du temps pour arriver à le découvrir. Vous voyez, toutes ces notions ne sont pas familières à la culture habituelle à laquelle nous sommes habitués, c'est familier au monde de la Torah. Hein? C'est que c'est moi, ce monde. Il n'y a pas la Terre et moi, c'est moi. J'ai l'impression que moi, je m'arrête à mon corps. Okay? Et que la périphérie de mon corps m'isole du monde extérieur. C'est pas vrai. Je respire, je mange, je suis enraciné dans ce monde-là. L'illusion de mes pieds, c'est mes pieds qui me font croire, parce que je marche, que je suis différent du monde dans lequel je suis en réalité enraciné. Je suis enraciné par les dents, pas par les pieds. Et le monde entier, c'est mon corps. Si je dis moi, où s'arrête moi et le non-moi? À la périphérie extérieure du corps? À la périphérie intérieure? Où ça s'arrête? Et en fin de compte, de proche en proche, l'univers entier, c'est mon corps. Je suis, ça y est, c'est clair? Bon, le problème, c'est que nous avons tous le même corps et on ne fait plus le même corps. C'est ça le problème de la société humaine. Nous avons tous le même corps, le même monde. Et chacun dit, c'est moi. Et l'image que je pourrais vous donner, c'est le corail. Oui. Chaque cellule du corail a le même pied. C'est un seul être, tout ce corail. Mais pourtant, chaque cellule se croit être individuelle. Bon, c'est à peu près le même problème. Alors, il faut bien réfléchir à ces conduites fondamentales dont les modernes ont perdu le sens. La nourriture me relie à l'univers entier. En fin de compte, le fruit que je mange, c'est le monde entier devenu fruit et que j'intègre en moi. Et en intégrant en moi, j'intègre en moi le monde entier devenu fruit. C'est mon corps que je mange. Il y a une espèce de... C'est mon propre corps que je mange. Vous connaissez le phénomène qu'on appelle l'autophagie? Pourquoi quand on jeûne, on a de la fièvre? Parce que le corps ne s'arrête jamais de se digérer. Et quand il n'a pas dans l'estomac de la nourriture à digérer, il se digère lui-même. Et le signe de cela, c'est l'élévation de température. La fièvre. C'est-à-dire, le monde est dans un processus d'autophagie permanente. À travers les hommes. À travers tous les habitants, finalement. Bien.
On peut imaginer ça en disant que Israël est le cœur, votre nation est le cœur.
Bon, je ne sais pas si Judas Lévi l'a entendu de toi, mais je ne sais pas non plus si toi tu l'as entendu de Judas Lévi. C'est ce que dit Judas Lévi.
De quoi ?
Que dans cette histoire du monde comme un seul organisme, Israël joue le rôle de cœur. Ça, on découvrira après. C'est une intuition qu'il y a eu, tu l'as entendu ?
Je l'avais entendu là-bas.
Ah, il faut toujours citer. Ça s'appelle une
citation.
Et d'ailleurs, le cœur doit fonctionner. Et si le cœur ne fonctionne pas, le monde a mal au cœur. C'est-à-dire, il a mal à ses juifs. C'est ce qui se passe. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout de l'idée. Bon, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui ? Finalement, c'est une illustration de ce vaillé-fait. Okay ? Bon, alors demain, on reprend Caïn et Abel. D'accord ? Hein ? Oui.
Je suis
en train de faire un peu de choses. Je suis en train de faire un peu de choses. Je suis en train de faire un peu de choses. Je suis en train de faire un peu de choses. Je suis en train de faire un peu de choses.